Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Merci d'être avec nous. Donc la radio dispose d'un webchat, utilisez votre navigateur web préféré, rendez-vous sur le site de la radio, donc causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 8 octobre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association april.org et vous y retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission avec les références que nous allons citer. La page sera mise à jour évidemment après l'émission. N'hésitez pas également à nous faire des retours. Si vous souhaitez réagir, poser une question pour ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio ou à nous appeler au 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors maintenant, le programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par la première chronique d'Emmanuel Reva qui portera sur les DRM, les menottes numériques. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur logiciels libres et les seniors. En fin d'émission, nous aurons l'interview d'un groupe de musique libre qui s'appelle Stone from the Sky. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isa. Nous allons vous proposer, comme à chaque émission, avant de commencer, un petit quiz. Je vous donnerai les réponses au fur et à mesure de l'émission. Première question. À quel célèbre roman Amazon a-t-elle supprimé l'accès du jour au lendemain sur ses liseuses? Non sans une ironie vu le nom du roman, y compris pour les personnes qui avaient payé pour le livre numérique. Deuxième question, lors de l'émission du 1er octobre 2019, nous avons parlé de la licence professionnelle métier de la communication, chef de projet, logiciel libre. Quel est le nom de cette licence? Vous pouvez bien sûr proposer les réponses sur les réseaux sociaux, sur le salon web, et au fur et à mesure de l'émission, je vous donnerai les réponses. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par la première chronique d'Emmanuel Reva, intitulée Itzik numérique. Nous initions des chroniques courtes depuis cette saison 3 de Libre à vous. Donc Emmanuel Reva a une entreprise qui s'appelle OGA, H-O-G-A, et la mission est de sensibiliser les gens sur la façon d'utiliser des logiciels et des services et de faire la promotion du libre, du partage et de la décentralisation. Alors normalement, Emmanuel est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Fred.
Alors Emmanuel, ta chronique va porter donc sur les DRM. Écoute, je te laisse nous expliquer ta façon de penser sur les DRM.
Merci. Parlons du DRM, donc. Tant qu'on a encore le droit de le faire, d'ailleurs. Le DRM, ou Digital Rights Management, ou comme dit la FSF, Digital Restrictions Management, ou en français, la gestion de restrictions numériques, c'est en fait l'obsession des maisons de disques et autres organismes de diffusion, et plus récemment aussi celui de Google, Apple et Netflix, qui, en gros, ça fonctionne techniquement en prenant le contrôle de l'ordinateur des gens pour réguler ce que l'on peut faire ou pas avec nos propres machines. Ça fait des trucs comme permettre à Amazon de supprimer des livres des liseuses de leurs clients. Et ils l'ont fait d'ailleurs avec le livre, avec le fameux 1984. Les clients, eux, peuvent toujours aller chouiner sur des forums ou créer des groupes de mécontents sur Facebook où il n'y aura pas beaucoup de likes, car de toute façon, la génération Facebook accepte pleinement les conditions générales de mépris de l'humanité. Pardon, je m'égare. Ça fait des années, voire des décennies qu'on râle, nous, les libristes, mais aussi quelques libéraux capitalistes. Et oui, parce que les DRM, ça saoule tout le monde. Et pire, ça saoule surtout les clients qui payent pour leurs trucs. Par exemple, le dernier SimCity. Pour y jouer, il faut être connecté à Internet pour prouver qu'on a bien payé pour le jeu. Et aussi qu'on n'est pas banni d'Internet. Fini les soirées dans sa petite cabane en bois au fin fond de l'Ardèche à jouer aux jeux vidéo tranquille, peinard. Et oui, c'est dans ce genre de cadre que j'ai envie de jouer à un simulateur de gestion de construction de villes capitalistes modernes. Pour ces gens, la seule solution pour profiter du jeu, acheter avec de l'argent durement gagné, dans notre monde sans pitié, c'est de le pirater. Et oui, le DRM est devenu monnaie courante. Même la W3C, organisme qui met en place des standards de publication qui sont censés promouvoir le web ouvert à toutes et à tous, sans discrimination et sans barrière, a accepté cette notion de protectionnisme en tant que standard HTML. Et pour aller plus loin dans la déprime, même les ordinateurs avec les systèmes libres sont compatibles avec le DRM moderne. C'est intégré directement dans le navigateur, dans Chromium et sans trop de résistance aussi dans Firefox. Nos médiathèques publiques nous donnent accès à des films et des documentaires très intéressants, mais ça aussi, ça passe par du DRM. Et pas n'importe quel DRM. Voilà, vous avez bien compris, c'est celui de Google qui en plus peut nous pister. Il faut savoir que tous les films et séries diffusées sur Netflix, Arte et autres, qui sont protégés par la magie du DRM, peuvent être trouvés sur les machins de téléchargement illégal sans problème et surtout sans DRM. Du coup, on peut les regarder sans être connecté au fin fond de sa cabane en Ardèche. Bref, le DRM, ça coûte un pognon de dingue et ça fonctionne 5 minutes. Si on voulait vraiment éviter la diffusion via le partage, entre guillemets, illégal, il faut faire comme avec le film LOL. Et si, avec juste un nom à la con, ce film est pratiquement introuvable sur le site de Torrent. Essayez de chercher LOL sur Pirate Bay, vous verrez bien. Il y a tellement de réponses à côté de la plaque que j'ai carrément attendu qu'il soit diffusé sur TF1 en film du dimanche soir pour me dire que finalement, bof, j'ai pas vraiment envie de le voir. Il faut dire que le fait que le Libé décrit ce film comme comédie bourge à haute teneur sarkozyste peut aussi expliquer le fait qu'on a du mal à le retrouver sur des sites de partage de culture. Et oui, on peut soit parler de pirates, des gens qui attaquent et qui pillent les autres, ou alors on peut parler de partageurs de culture, des gens qui rendent la culture accessible à tous. Alors si vous voulez faire un film qui ne soit pas restreint par le DRM, mais qui soit difficile à trouver sur les interwebs des pirates partageurs de culture, choisissez des titres à la con. Par exemple, pour un film, je vous propose HDTV X264. Ou pour une série, saison 3 complète, ou alors WebRip. Il y a aussi Yifi, ou 1080p.blu-ray, ou DJ Ahmed, ou alors il y a AMZN. Avec ces noms, même Google aura du mal à pirater nos œuvres.
Ben merci Emmanuel pour cette chronique. Tu vas rester en ligne avec nous parce que donc la chronique s'inscrit dans une journée internationale contre les DRM organisée par la Fondation pour le logiciel libre, donc journée prévue samedi 12 octobre 2019. Le site web c'est defectivebydesign.org, donc défectueux à dessein ou par conception, mais les références sont sur le site de l'April, april.org. Et le 4 septembre 2018, nous avions consacré une émission au thème des DRM avec Marie Dupont-Chel, avocate, et Jean-Baptiste Kempf de VLC, le fameux lecteur multimédia libre. Et on va vous diffuser un court extrait de cette émission qui dure à peu près 5 minutes 30, 6 minutes. Et Emmanuel, on se retrouve juste après. Donc vous êtes sans doute encore nombreuses et nombreux à utiliser des supports traditionnels des œuvres de l'esprit, par exemple un livre papier. Une fois que vous avez acheté ce livre papier, vous disposez de libertés fondamentales, comme celle de le lire comme bon vous semble. Vous pouvez sauter des passages, commencer par la fin, le relire autant de fois que vous voulez, la noter, le prêter. De même, pour les personnes qui portent des lunettes, et nous sommes deux autour de la table sur trois personnes, on ne vous impose pas, quand vous achetez un livre, une paire de lunettes, avec un prix en plus. On ne vous dit pas, vos lunettes que vous avez là, c'est une marque qu'on ne connaît pas, dans laquelle nous n'avons pas confiance. Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour lire ce livre, vous devez utiliser nos marques de lunettes à nous, dans lesquelles nous avons confiance. Vous exercez donc votre droit à des usages considérés, comme la plupart des gens, comme légitimes. Et puis dans ce monde traditionnel, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Parce que sinon, pour contrôler votre usage du livre, si on prend cet exemple-là, vous imaginez un agent assermenté de l'éditeur qui apparaîtrait tout d'un coup à votre côté, vous tapoterait l'épaule là et vous dirait « Non, tu dois commencer ta lecture par le premier chapitre, avec toutes les annonces des prochains livres et les alertes sur les dangers ou pseudo-dangers de la contrefaçon, avant même de commencer la lecture de ton roman. » Et puis de la même façon, là, si tu veux relire une deuxième fois le livre, ben, faut que tu repasses à la caisse. Et pareil, là, tu portes des lunettes, eh bien non, tu dois prendre pas tes lunettes habituelles, tu dois prendre les lunettes qu'on a vendues avec le livre. Bon, évidemment, c'est un peu Big Brother. Ce contrôle absolu des usages privés est inimaginable, bien entendu. Ah, sauf qu'il est inimaginable dans le monde traditionnel. Mais en fait, pas pour tout le monde, car certaines personnes, enfin, de très nombreuses personnes et organisations, bah, notamment qui produisent des livres numériques, des DRM ou tout objet numérique, considèrent qu'à partir du moment où techniquement on peut contrôler des usages, même privés, eh bien on va le faire. Parce qu'après tout, si la technique le permet, on va pas se gêner, non, si on peut contrôler des usages privés. Donc de nos jours, un exemple, quand vous achetez un DVD ou de la musique en ligne, et très généralement, on, alors le on étant le producteur, l'industrie, les industries culturelles, vous impose par exemple de visualiser certaines plages sur le DVD, publicité. On vous impose aussi le choix d'un lecteur multimédia. Vous téléchargez de la musique sur un site, vous devez utiliser le lecteur multimédia qui est fourni avec ce site et pas un autre. Et ce contrôle d'usage se met en place par ce qu'on appelle les DRM, donc on va redéfinir après bien entendu, qui est un outil technique qui contrôle un usage privé, mais aussi surtout par leur protection juridique. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va cibler beaucoup la vidéo avec, avec Jean-Baptiste et Marie. Mais est-ce qu'on peut citer quelques autres exemples de DRM dans la vie quotidienne qui permettent de comprendre aux gens que finalement, on vit une vraie overdose de DRM? Jean-Baptiste, Marie?
Les capsules Nespresso, ils ont essayé d'empêcher d'avoir des capsules compatibles. Aujourd'hui, si faut pas acheter Nespresso pour d'autres raisons, notamment écologiques, mais c'était vachement pratique, ça c'est vrai. Et ils sont arrivés, ils ont essayé de vous empêcher Monoprix et tout ça, de faire des capsules beaucoup moins chères. Et ça, c'était juste pour des raisons d'incompatibilité et d'attaque juridique. C'est pas exactement des DRM, mais c'est exactement la même idée. Vous n'avez pas le droit de mettre le café que vous voulez. Vous mettez le café que je vous vends et que j'ai et dont j'ai fait l'approvisionnement et dans lequel j'ai mes marges, etc.
Marie, vas-y.
On avait aussi l'exemple dans les imprimantes, on a eu pendant très longtemps en fait des petits systèmes qui vous disaient si vous ne mettez pas la cartouche imprimante de ma marque, votre imprimante ne marchera plus. C'est des exemples concrets, c'est à la limite des mesures techniques de protection, mais ça montre que c'est la même problématique et c'est exactement la même logique en fait.
Étienne, tu as un exemple
hein? Ouais, je pense à un exemple pour les. Moi, je sais que je suis amateur de jeux vidéo. Quand je suis obligé d'être connecté à Internet pour jouer à un jeu qui, pourtant, le jeu lui-même ne nécessite pas une connexion, mais pour vérifier que je l'utilise comme convenu ou que j'ai pas une version qui ne serait pas autorisée, quand je suis obligé de me connecter, je pense que ça relève même de cette même logique.
Et moi, je pense que l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec des lunettes qui se brouillent quand tu lis un bouquin, ça fait rigoler aujourd'hui. C'est dans 20 ans, c'est carrément possible. Quand on voit l'évolution de la réalité augmentée ou même des Google Glass, aujourd'hui c'est ridicule. Franchement, dans 30 ans, c'est pas une blague, quoi. C'est tout à fait possible.
D'avoir l'accès à la pleine expérience. C'est-à-dire, si vous avez nos lunettes, vous aurez une expérience supplémentaire.
Non, mais c'est pas déconnant de se dire que dans 15 ans, 20 ans, tout le monde aura des lunettes qui rajouteront des informations. Plutôt que d'avoir à sortir son smartphone pour savoir où tu vas, ça peut être vachement cool pour plein d'utilisations. Et donc, c'est pas débile de se dire que ça va être quelque chose qui va être généralisé. Et donc, à ce moment-là, oui, mais non, vous n'avez pas le droit de passer par là, vous n'avez pas le droit. Donc, il y a des possibilités vraiment gênantes. Moi, je n'utilise pas de DRM. Moi, je dis.
Tu dis quoi?
Je ne parle pas de management à chaque fois, je ne dis pas gestion, je dis limitation. Parce que c'est ce que je dis aussi en anglais. Je parle de digital right limitations. Et parce qu'en fait, le management, il a l'impression qu'il y a une gestion, comme ça simplifie. Alors qu'en fait, ça, pour l'utilisateur, c'est une limitation de ses droits.
Donc c'était un extrait de l'émission donc du 4 septembre 2018 consacrée au DRM. Vous retrouverez évidemment le podcast sur le site causecommune.fm et sur le site april.org. Emmanuel, souhaitais-tu faire une petite réaction courte suite à cette diffusion?
Alors oui, il y a un truc, il y a deux trucs que je voulais dire, mais je crois que je vais n'en dire qu'un parce que sur le DVD et tout ça, il y a pas mal d'exemples déjà. Mais je pensais aussi aux argumentaires des gens qui veulent défendre le DRM. Et souvent, ils se défendent avec des trucs aussi absurdes comme la copie à usage personnel tue l'industrie, qui était le gros truc dans les années 80 en anglais, d'où la cassette qu'on voit dans pas mal de logos de Pirate Bay, par exemple. Et dans IT Crowd, on voit un poster avec marqué « La couture maison tue la mode ». C'est très intéressant, ça résume super bien ce que l'on fait en dehors du contrôle du capitalisme nuit au capitalisme. Et donc, il faut absolument l'interdire. Avec l'informatique moderne, on peut pousser plus loin que la loi. Et en fait, c'est ça le DRM.
Écoute, c'est une belle conclusion. Je vais juste préciser que IT Crowd est une série anglaise qui a eu 2 ou 3 saisons. Et je pense qu'on peut trouver les épisodes sur Internet. Écoute, merci Emmanuel. Donc c'était Emmanuel Reva de le site oga.fr. Et on se retrouve le mois prochain.
Ouais, merci.
Belle journée. À bientôt.
À vous aussi. Au revoir.
Avant la pause musicale, je vais vous répondre à la première question du quiz, vu qu'elle est en lien avec le sujet précédent. La première question, c'était donc à quel célèbre roman Amazon a-t-elle supprimé l'accès du jour au lendemain sur ses liseuses, y compris pour les personnes qui avaient payé le livre numérique? L'ironie a voulu que c'était 1984 de George Orwell. Donc nous allons faire une petite pause musicale, nous allons écouter Bouquet d'opinions par Moi Je. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause commune.
Vas-y, qui t'étouffe par face. Soit pris d'en haut, soit pris d'en bas. Vertige des mots et d'apparat. Traverse les ondes. Ne signe pas comme ça. Répercute la révérence du monde. Mais baisse-toi, tu ne la prendras pas. L'odeur des opinions suffoque. Plus de pétales roses sur nos fronts. La vase que l'on invoque nous retient.
tient bien au pavillon. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes. Y'a que l'effort qui donne raison, choisi parmi mon bouquet d'opinions. Et comme ça serre la tête, les taux se multiplient, les vis se pincent en fait. Y'a pas d'étau pour la lobotomie. Mais cherche bien, ne singe pas comme ça. Faut pas lier tout au commun, l'origine ne chope pas comme ça. Mais quelle magnifique stance, se retrouve en bouquet. Tout se mélange, tout danse, l'eau posée à côté. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes. Y'a que l'effort qui donne raison, choisi parmi mon bouquet d'opinions. Mais l'opinion, savoir laquelle. Y'a plus de choix quand y'a l'opinion. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes. Y'a que l'effort qui donne raison, choisi parmi mon bouquet d'opinion. Choisis parmi mon bouquet d'opinions. Choisis parmi mon bouquet d'opinions.
Nous venons d'écouter Bouquet d'opinions par Moi Je, disponible sous licence art libre. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Avant de passer au sujet suivant, je vais signaler à Emmanuel Reva qui faisait la chronique juste avant sur le DRM, que nos invités ont trouvé la chronique très intéressante sur les DRM. Voilà, je lui fais passer le message s'il nous écoute toujours. Nous allons donc maintenant passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter donc sur les logiciels libres et les seniors. Nos invités du jour, Alain Cazier, conseiller en formation continue retraité et bénévole dans un centre social parisien. Bonjour Alain.
Bonjour Fred.
Et Claude Gage, comédien. Bonjour Claude.
Bonjour.
Alors d'abord, je tiens à préciser que le sujet m'a été proposé, enfin nous a été proposé par Alain, qui fréquente de temps en temps les apéros April au local. Donc une fois par mois, j'en fais à la pub. Alors le prochain, je crois, de mémoire, c'est le 18 octobre 2019, vendredi 18 octobre. Donc c'est un apéro ouvert à tout le monde dans le 14e arrondissement de Paris. Vous retrouverez les références sur le site de l'april.org. Et donc Alain nous a proposé il y a quelques temps ce sujet sur la question donc des logiciels libres pour un public très précis qui est les seniors, même si évidemment les seniors, ça commence en fonction de la définition à plus ou moins différents âges, mais avec des problématiques particulières. Alors d'ailleurs, première question, une petite question de présentation de tour de table. Qui êtes-vous? Donc on va commencer par Alain Cazier.
Disons, à l'heure actuelle, je suis essentiellement bénévole dans un centre social parisien où j'y suis depuis 18 ans, donc c'est pas nouveau, mais j'anime des ateliers d'informatique. J'aide les utilisateurs à régler les problèmes qu'ils peuvent avoir avec l'informatique. Et en particulier, on est en liaison avec le Conseil des seniors du 10e arrondissement qui nous envoie fréquemment des personnes qui ont des problèmes avec l'informatique, qui ont des soucis avec leur portable ou avec leur smartphone d'ailleurs. Donc on essaye de régler ça de façon à ce qu'ils soient plus tranquilles et plus libres aussi de ce point de vue-là. Donc ça m'a amené, en liaison avec mon intérêt pour les logiciels libres, à proposer à des gens qui avaient des difficultés sur des systèmes propriétaires à passer sur du système libre. En général, ce que j'ai pu constater, c'est que ces personnes avaient beaucoup moins de soucis une fois qu'ils avaient pu avoir un système libre installé. Ils revenaient moins me voir, ou quand je les voyais, ils me disaient « bon bah ça va, j'ai pas trop de problèmes », parce que faut partir de l'idée que...
Alain, excuse-moi, oui, avant, on va finir le tour de table, la présentation de Claude, et on va rentrer dans le détail, comme ça, on saura qui sont nos invités. Donc, Claude Gedge, c'est à vous.
Eh bien, écoutez, moi, je suis comédien, et actuellement, je joue dans une pièce qui s'appelle qui a pour titre 12 hommes en colère au Théâtre Héberteau, tous les soirs à 19h.
Et j'encourage toutes les personnes à aller le voir. Alors, pour rappel, il y a le film des années 50 de Sidney Lumet, si je ne me trompe pas. Et on en parlait juste avant l'émission, dans la période qu'on vit actuellement, avec notamment un certain nombre de réseaux sociaux qui jouent le rôle de tribunal ou autre, voir cette pièce ou lire la pièce 12 hommes en colère est une nécessité absolue.
Ah oui, ça, certainement. Oui.
Voilà. Alors, on va revenir donc maintenant qu'on a fait le petit tour de table de présentation. D'ailleurs, alors on nous signale, je signale que la personne qui est en régie, donc Isabella, signale que c'est l'un de ses films préférés. Alors, donc avant de revenir sur ce que tu commençais à dire, Alain, sur le fait que tu avais beaucoup moins de problèmes avec des systèmes libres dans le cadre de tes formations, on va commencer peut-être par la premier sujet avant d'aborder vraiment le logiciel libre, c'est ce qu'on pourrait appeler la fracture numérique pour les personnes âgées, donc pour les seniors, parce qu'évidemment, forcément, il y a une problématique différente que les personnes que peuvent avoir les personnes de 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc notamment, alors il y a plusieurs sujets potentiels, notamment il y a le recul de l'accueil physique dans les services publics, il y a aussi les sites en ligne, on a cité certains en préparant et on va en parler, il y a les liens avec la famille ou les amis géographiquement éloignés. Donc qui veut commencer sur cette partie vraiment, voilà, la fracture numérique pour les personnes âgées ou pour les seniors en général? Peut-être Claude ou Alain, qui veut commencer?
C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de ne pas être né dans ce monde. Alors c'est difficile et tout ça me paraît parfois un peu insolite et pas inquiétant mais curieux et d'un accès un peu difficile. Ça va très très vite. Il faut essayer de comprendre des choses auxquelles je n'étais pas habitué. Même la façon de réfléchir le monde est différente maintenant avec ordinateur et Internet. Et alors, il y a quelque chose en moi qui résiste malgré moi. Bien que j'ai été formidablement bien aidé par un certain Alain Cazier qui essayait de me former, j'ai encore du mal. Il y a des choses, par exemple, qui me font reculer. Je me demande, par exemple, faire une déclaration d'impôt, faire des achats sur Internet, prendre un rendez-vous chez le médecin avec docteur, je ne sais plus comment.
Doctolib.
Des choses comme ça, pas que ça m'effraie, mais je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Par contre, j'aime bien rechercher des thèmes musicaux, des informations sur des musiciens que j'aime, sur des questions culturelles, sur la lecture, la peinture, des choses comme ça. Bon, j'arrive à le faire. Et c'était avec beaucoup de plaisir. Mais des choses pratiques de la vie quotidienne, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rebute, ça me rejette un peu.
D'accord.
Voilà.
On va venir après sur la partie positive de l'apport de l'informatique, mais on va rester pour l'instant sur la partie problématique ou négative. J'ai une question. À partir de quand avez-vous commencé à utiliser donc un ordinateur?
Oui.
Et à partir de quand avez-vous commencé à utiliser, alors peut-être contraint ou forcé d'ailleurs, des services sur Internet, donc pour la déclaration d'impôts, comme vous l'avez dit, pour prendre des rendez-vous médicaux, ou peut-être même réserver des places de spectacle?
Oui, hein. Oui. Ben, oui, mais toutes ces activités, je ne les fais pas, justement.
Ah, vous ne les faites pas?
Je ne les fais pas.
D'accord.
Je fais des recherches sur la musique, la littérature, la peinture, des choses comme ça. Oui, j'y arrive. Mais je ne sais pas encore bien m'y prendre pour faire toutes ces...
Mais, l'usage de l'informatique, on va dire, de base, c'est-à-dire la bureautique, oui. Vous avez commencé à l'utiliser? Et si oui, à partir de quand?
Il y a à peu près... quand on m'a offert mon ordinateur, c'est-à-dire un peu plus d'un an.
D'accord.
Un an.
D'accord.
Voilà.
Donc il y a un an, vous êtes mis un petit peu à l'informatique.
Voilà.
D'accord. Ok. Alain Cazier, tu veux intervenir là-dessus?
Oui, je crois que ce qu'évoquait Claude est tout à fait symptomatique de toute une population qui n'a pas eu la possibilité dans son travail, quand elles étaient en activité, d'utiliser l'informatique. Et ce sont des gens qui, pour l'essentiel, sont très largement désemparés. Avec tous les exemples que donnait Claude, c'est tout à fait évident. Ils sentent qu'il y a de moins en moins d'accueil public, du public, d'accueil physique du public, et donc ils sont en grande difficulté quand ils ont des démarches à faire, prendre un rendez-vous à l'hôpital, ils sont habitués au téléphone, et donc on voit des gens qui sont en grande difficulté de ce point de vue-là. Dans le centre social, il y a un autre public qui est aussi en difficulté, ce sont des gens qui sont pas des francophones, donc qui peuvent avoir des difficultés. Dans certains, se débrouillent très bien avec tous les outils numériques, mais d'autres, en fonction de leur âge, en tout ça, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, pour les personnes âgées, c'est une vraie difficulté. En même temps, il y a ce qu'évoquait Claude, c'est-à-dire qu'il y a tout un potentiel qui peut apporter à ces personnes des connaissances diversifiées dans des tas de domaines musicaux, toutes les vidéos qu'on peut voir et dont ils sont friands, tous les échanges avec leurs proches.
Tout à fait. Et donc, quand tu parlais tout à l'heure du recul de l'accueil physique, c'est dans les services publics notamment. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, on parlait tout à l'heure de la déclaration d'impôt. Sauf erreur de ma part, elle va devenir obligatoire en ligne l'an prochain. Alors, je demande de l'aide sur le salon web, si quelqu'un a les informations précises, mais je crois qu'elle va devenir obligatoire très bientôt, en tout cas pour une certaine catégorie de personnes, et que ça pose évidemment, comme vient de le dire Claude Gage tout à l'heure, des problèmes pratiques pour les gens qui découvrent ce monde-là.
Donc si je peux ajouter une chose,
bien sûr, Claude, allez-y.
Ce que je dirais, c'est que bon, c'est pas comparer ça à une infirmité, mais pas loin. Mais j'ai le grand désir d'y arriver, de le faire. J'ai envie de me débarrasser de ça et de pouvoir utiliser toutes les possibilités qu'offrent Internet et l'ordinateur et de m'en servir et voilà. D'en bénéficier de tous ces avantages, quoi, toutes ces ouvertures.
Alors, on va parler des avantages. Vas-y, oui, Alain Cassier.
Oui, un petit point que Claude, tu as évoqué, qu'on a évoqué ensemble, c'est que avant que tu aies un ordinateur et un smartphone aussi, tu n'étais jamais au courant des pièces qui étaient jouées par des amis, tu n'étais jamais au courant des offres qui pouvaient être faites de jouer dans telle ou telle pièce. Parce que là, c'était une coupure dans ce qui fait tout ton métier, ta profession, c'était une coupure totale, quoi.
Tu as raison. C'est vrai que, oui, bien des amis qui étaient dans d'autres spectacles, qui jouaient des choses, qui faisaient des interventions différentes, j'étais pas au courant, j'apprenais parfois. Mais ils me disaient, oui, mais on a envoyé à tous nos amis qui ont des ordinateurs et Internet. Eux, ils savent, ils sont venus. T'es pas venu parce que tu n'as pas.
Et donc il y a une exclusion sociale qui se crée, parce que pas par la volonté forcée de vos amis ou des personnes qui sont dans votre métier, mais c'est parce que leurs pratiques font qu'elles ont évolué
et que la vôtre n'a pas encore évolué.
Donc on me signale sur le salon web que concernant la déclaration en ligne obligatoire, c'est à compter de 2019, l'obligation de télédéclarer ses revenus est généralisée à l'ensemble des contribuables. Le fisc prévoit toutefois des exceptions, donc je remercie Cousine qui est sur le salon web de la radio. Alors ça, c'est la partie problématique. Alors tout à l'heure, Claude Gage, vous venez de dire le terme infirmité, c'est clairement un point de blocage, mais en tout cas dans votre vie à la fois sociale, et je pense qu'on le vit tous à peu près, si on n'est pas dans certains réseaux sociaux, on est informé très tardivement d'un certain nombre de choses, et c'est en plus un point de blocage dans votre pratique de comédien
professionnel.
Donc c'est vraiment très dommageable. Alors c'est le point de blocage, mais évidemment, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Claude, l'informatique apporte aussi des choses positives pour tout le monde, y compris pour les personnes âgées. Alors, dans votre expérience, justement, est-ce que, donc récente sur l'informatique, sur l'usage d'Internet, qu'est-ce que ça a pu vous apporter concrètement, à la fois à terme personnel et à terme individuel ? Professionnel, excusez-moi.
Professionnel, non, mais individuel, oui.
Alors, individuel.
Par exemple, j'ai recherché d'abord pour écouter des chansons de Leonard Cohen, ça a été formidable, j'ai découvert plein de choses, des chansons que je ne connaissais pas. Sur un peintre aussi, que je cherchais des choses, j'ai réussi à les trouver et ça a été un grand plaisir et une grande satisfaction. Je me suis dit, formidable, j'ai appris, voilà.
Et vous allez vous utilisez un moteur de recherche ou vous allez sur Wikipédia? Comment vous faites pour, par exemple, Leonard Cohen? Alors, Leonard Cohen qui est disparu il y a 2 ans maintenant, je crois.
Oui.
Donc, grand chanteur canadien. Comment vous avez fait?
J'ai tapé Leonard Cohen et tout est arrivé.
Et tout est arrivé.
C'était magique pour moi. je voulais écouter la chanson Le Partisan. Formidable, je l'ai eu tout de suite.
Extraordinaire chanson.
Ouais. Oui. Et ça a été un presque ravissement.
D'accord.
Voilà.
Tu voulais réagir, Alain Cassier, là-dessus?
c'est un peu le cas de tout le monde. La recherche, tu as fait d'autres recherches sur Wikipédia récemment, enfin de musiciens, oui. de jazzmen.
Charlie Parker,
c'était pareil. Oui. Donc à chaque fois, c'est une occasion d'avoir une richesse en information. Et pour les gens que j'ai l'occasion d'aider dans les ateliers que j'anime, c'est exactement la même chose. Ils font des découvertes absolument incroyables de ce qu'ils pensaient, mais en même temps, et ça sera peut-être un des points qu'on abordera après sur les logiciels libres, il y a ce que Claude exprimait, c'est-à-dire la crainte de communiquer sur des données personnelles. Donc là, on reviendra peut-être là-dessus, mais je pense qu'à chaque fois que les gens peuvent taper dans un moteur de recherche qui n'est pas forcément celui le plus courant, s'ils peuvent taper le nom d'un artiste qu'ils recherchent, ils retrouvent de l'information assez précise. Par exemple, sur Wikipédia, je les incite à aider au financement de Wikipédia.
Parce que la campagne
de dons, de façon à ce qu'ils comprennent bien qu'il y a un travail derrière, que c'est pas simplement un don, c'est le contraire un peu de Google qui va lui apporter quelque chose de gratuit, de totalement gratuit, mais qui finalement vous emprisonne largement. Au contraire, là, on a la possibilité de donner pour un service, ou pareil, les gens qui utilisent LibreOffice dans le centre social, qui veulent se former.
C'est une suite bureautique.
C'est une suite bureautique, voilà, et qui veulent pouvoir taper du texte sans souscrire aux offres de Microsoft. Ils comprennent bien qu'il y a un travail derrière et qu'il faut le financer à mesure de ses moyens.
Alors, j'ai une petite question, parce que quand vous dites que vous avez tapé Leonard Cohen et tout est arrivé par magie, est-ce que vous avez eu conscience à ce moment-là de imaginer un peu le fonctionnement, comment c'est arrivé? C'est-à-dire que ma question, je vais peut-être la préciser, est-ce qu'à ce moment-là, vous faisiez la différence entre un navigateur web et un moteur de recherche?
Pas du tout.
Pas du tout. Et alors, je vous pose la question, oui. Et je vais vous laisser poursuivre, parce que beaucoup de gens, de nos jours, en fait, confondent le navigateur web avec le moteur de recherche, parce que quand le navigateur web s'ouvre, en fait, les gens tapent un mot, et en fait, ils pensent, en fait, que, enfin, ils confondent les deux. Et donc, à ce moment-là, en fait, vous dites, c'est par magie, sans vous poser la question de savoir, en fait, quel logiciel était mis en œuvre et par qui derrière.
Non.
Non.
Mon ignorance était totale. J'ai eu cette révélation tout d'un coup. Tout ce que j'ai pu apprendre sur Leonard Cohen ou Charlie Parker sont arrivés comme ça, quoi, après avoir tapé le nom.
Alain ?
Oui, je confirme. La confusion est constante depuis des années que j'anime des ateliers ou que j'aide des personnes Il y a la confusion moteur de recherche et navigateur est constante. Et à chaque fois, je suis forcé de rappeler qu'il y a une hiérarchie entre les deux, que l'un sert à aller sur Internet et l'autre à chercher des éléments plus facilement sur Internet. Donc, ça, c'est vraiment une difficulté constante de toutes les personnes. Je pense que c'est pas limité aux personnes âgées.
Alors, exactement. Je posais la question parce que, côtoyant des ados, je constate que beaucoup d'ados en fait font aussi la même confusion. Et d'ailleurs, sur le salon web de la radio, quelqu'un précise que cette confusion n'est pas que pour les seniors, mais aussi ce qu'on appelle les digital natives. Alors qu'en fait, ces digital natives confondent effectivement moteur de recherche et navigateur, simplement parce qu'on ne leur a pas forcément expliqué. Alors, en l'occurrence, évidemment, et comme le précise Muman sur la radio, Google, donc qui est le moteur de recherche, entretiennent évidemment bien volontairement la confusion entre les deux. Mais en tout cas, voilà, c'est cette découverte donc d'une masse d'informations qui est librement partagée, enfin pas forcément que librement partagée d'ailleurs, mais qui est partagée et qui est la base d'Internet. J'avais aussi une autre question par rapport aux pratiques individuelles. Est-ce que depuis que vous êtes mis finalement sur l'informatique et sur Internet, vous avez plus de nouvelles de votre famille ou de vos amis, notamment via un certain nombre de réseaux sociaux? Alors, je vais pas les citer parce que peu importe lesquels, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que on s'envoie plus de cartes postales ou on s'envoie plus de photos imprimées pour se tenir au courant de la naissance du petit dernier ou de l'évolution des gens. On utilise les réseaux sociaux. Donc, est-ce que dans votre pratique actuelle maintenant, vous avez cette information qui vous arrive?
Formidablement.
Ah.
Et pour moi, c'est magnifique. Merveilleux. Oui, j'ai plein d'informations. Par exemple, je préparais un autre spectacle. La personne a pu me laisser une page d'informations que j'ai pu lire, découvrir, réfléchir sur les questions qu'elle me posait, lui répondre. Ça, c'est formidable. Bon, et j'ai pu avoir aussi, bien sûr, des informations sur ce que faisaient de nombreux amis. Alors là, j'y réponds encore très bien. Je ne leur réponds pas par Internet, mais surtout par encore avec mon téléphone.
C'est-à-dire ?
Oui, mais c'est-à-dire qu'il m'envoie un message, moi je ne réponds pas forcément avec mon ordinateur, mais je prends mon téléphone et je leur dis, voilà, j'ai eu ton message, je te remercie beaucoup, et voilà.
Alors, pour bien comprendre, quand vous employez le terme message, est-ce que c'est un courriel que vous recevez ou c'est un autre message ? Est-ce que c'est un SMS ?
Non, c'est un courriel sur... Sur Internet, je crois.
D'accord. Et votre réflexe, c'est de prendre votre téléphone et d'appeler pour confirmer. Oui, d'accord. Oui.
C'est pas très pratique. Mais bon, faut que je m'y mette. Faut que je m'entraîne. Je dis qu'il faut que je m'entraîne à pouvoir répondre aussi comme eux me contactent.
Effectivement, mais c'est un apprentissage.
Oui.
C'est intéressant de voir comment on s'approprie ces technologies et puis comment les réflexes sont là et puis comment ça évolue aussi, évidemment. Avant d'aborder le sujet suivant qui va être la question des handicaps possibles par rapport à l'âge et l'informatique, est-ce que Alain, tu veux ajouter quelque chose vraiment sur cette partie, on va dire, magnifique d'Internet pour les seniors, enfin pour tous les publics?
Je crois que... En fait, pour ce public comme pour les autres, faut partir des besoins qu'ils ont. C'est-à-dire, les besoins qu'ils ont, c'est de rechercher de l'information, c'est de communiquer. Et le mail qu'évoquait Claude, c'est un moyen de communication. Donc, dans tous les ateliers qu'on anime, c'est ce premier point. Bien sûr, après, il y a accéder à des sites qui vont leur permettre de régler des problèmes administratifs ou de santé ou autres. Mais les besoins sont très simples. En général, les gens ont peu besoin de bureautique. Ils ont éventuellement besoin de taper un courrier simple à une administration ou à une entreprise quand ils ont une question à poser. Mais si on reste sur ces besoins-là, ça couvre 90-95% des besoins. Les réseaux sociaux en tant que tels, les gens s'en méfient plutôt. Je parle des
seniors.
Des seniors, oui. Je pense qu'ils ont une certaine méfiance vis-à-vis de l'usage des réseaux sociaux, et ils sont pas complètement infondés.
Alors c'est la question des données personnelles dont tu parlais tout à l'heure.
Les données personnelles.
Principalement.
Oui, tout à fait. Déjà même le fait de faire une déclaration d'impôt en ligne, le fait c'est pour eux c'est une sorte d'ouverture sur des données personnelles qui devraient rester confidentielles pour eux. Donc il y a une crainte et je pense qu'elle est très générale. Elle est vraiment très marquée. Il y a peu de gens qui n'évoquent pas dans les ateliers que j'anime cette question de la confidentialité des données, la surveillance en ligne, du risque d'être piraté, comme le disent les gens. Enfin, c'est constant.
D'accord.
Et donc là, je crois qu'il y a des éléments pour essayer de les rassurer et de leur dire qu'on peut faire certaines choses, mais qu'on ne peut pas tout faire. Et ce que je voudrais peut-être ajouter aussi, c'est que je m'aperçois que dans ces ateliers, les gens n'ont pas seulement besoin d'utiliser des outils, ils ont besoin aussi de comprendre. C'est-à-dire que c'est rare que dans une heure et demie d'atelier, il n'y ait pas 10 minutes, je ne sois pas amené à expliquer quel est le fonctionnement fondamental de l'Internet, par exemple. Comment fonctionne ce réseau ? D'une façon très simple. Comment, par exemple, les informations circulent d'un point à un autre ? Comment ils récupèrent sur le serveur de Wikipédia un texte qui va les informer sur Leonard Cohen, pour reprendre ce cas-là, par exemple. Donc ça, il y a besoin de... C'est pas simplement une formation à des outils. Il y a ça, il y a un côté très utilitaire, mais à la fois la volonté de comprendre, de voir comment ça marche, d'une façon courte, d'une façon simple.
D'accord. Et est-ce que vous posez des questions sur vos données, donc des données personnelles, mais des données que vous pouvez produire, par exemple des photos que vous pouvez prendre et de leur devenir, c'est-à-dire que la compréhension de savoir est-ce que la photo que vous avez prise, elle est sur votre téléphone mobile, est-ce qu'elle est sur votre ordinateur, est-ce que si demain vous avez un problème technique, est-ce que la photo va être conservée, parce que quand tout à l'heure Claude Gage parlait de magie, effectivement ça peut être un peu magique ça, quand on connaît pas l'informatique, quand on prend une photo, où se trouve la photo, où se trouve le document que j'ai fait par exemple pour tel service public, est-ce que ces questions-là vous y pensez, comment vous les traitez aujourd'hui, Claude Gage?
Écoutez, je ne les traite pas parce que je ne sais pas l'utiliser.
D'accord.
Voilà. Alors, je le regrette encore, ça fait partie de tous mes regrets, mais enfin, il faut que je me soigne, sérieusement.
Et donc, dans les ateliers, Alain, ce point-là est abordé ?
C'est pareil, où sont les données ? C'est un point incontournable des ateliers qu'on peut animer, parce que c'est toujours... les gens le voient sur leur portable, sur leur smartphone, par exemple, ou sur leur ordinateur, et ils ont l'impression que c'est chez eux.
Voilà.
Or, ça, c'est vraiment une notion sur laquelle il faut insister en disant, non, C'est dans un serveur, on ne sait pas où il est, enfin donc on ne sait pas où c'est stocké. Je crois que là, il y a une formation très précise, pas forcément très longue, mais à faire sur cette question-là.
D'accord. Vous vouliez compléter, Claude ?
Oui, mais moi, c'est pas ça qui m'inquiète de savoir où sont les choses, c'est de savoir faire les choses.
Mmh. Voilà. Et de comprendre ce que venait dire Alain.
Oui, comprendre, oui, ce que disait Alain. Comprendre les choses, et oui, c'est ça qui me paraît le plus important. Enfin, en ce qui me concerne, avec mes limites.
Sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm, les auditeurs et auditrices peuvent nous rejoindre. Il y a plusieurs réactions qui confirment que, effectivement, cette compréhension, ce besoin de compréhension est quelque chose qui est partagé par les seniors, notamment Marie-Odile. Marie-Odile, elle parle d'autre chose. Ah, mais c'est WhatsApp. Donc, on parlera tout à l'heure de WhatsApp, les méfiances. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est partagé. Et par rapport à cette volonté de comprendre, bah, finalement, et on y reviendra tout à l'heure après sur les logiciels libres, mais Internet permettre de consulter de nombreux documents qui vous permettent de comprendre. Donc je suppose que ça doit être absolument extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est il y a un sujet tout d'un coup qui vous intéresse. Vous parliez tout à l'heure de Leonard Cohen. Bon, il y a la page Wikipédia de Leonard Cohen, mais je suppose qu'il y a des sites de fans de Leonard Cohen sur lesquels vous allez peut-être trouver des références, des petits bijoux. Donc
Alors ça, j'y ai pas. Eh ben, je n'y ai pas pensé du tout. J'ai pas été très loin, j'ai été jusqu'au plaisir que je prenais à écouter Leonard Cohen et avoir des informations sur qui il était, comment il vivait, voilà. Je me suis arrêté là. Moi, ça m'a beaucoup apporté. C'est peut-être limité, ça peut paraître comme limité. Mais...
Ah non, pas du tout. Alors, j'ai une petite question avant la pause musicale. En introduction, vous avez dit que vous étiez comédien et que vous jouiez dans la pièce 12 hommes en colère, donc au théâtre Héberto. Est-ce que vous avez été voir la page Wikipédia de 12 hommes en colère ?
Eh ben non, moi je n'ai pas été voir, mais mes amis au théâtre me l'ont montré.
D'accord.
Ils savent faire fonctionner tout ça, ils m'ont montré, c'était passionnant. Ah oui, c'est formidable. Ah oui.
Alors, on va faire une petite pause musicale et après, on va reprendre la suite de notre conversation. Nous allons écouter, alors je cherche, Ambroise par Eau-Forte. On se retrouve juste après et continue à passer une belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause commune. Thank you.
nous avons écouté Ambroise par Eau Forte, disponible sous licence Creative Commons Partage Attribution. Et vous retrouverez les références sur le site de la radio causecommune.fm et sur le site de l'April, april.org. Nous poursuivons notre échange donc avec Alain Cazier, donc conseiller en formation continue retraité, bénévole dans un centre social parisien, que je vais nommer d'ailleurs le Paris des Faubourgs, dans le 10e arrondissement de Paris. Et Claude Gage, comédien. Donc nous parlons de logiciels libres et les seniors. On va aborder le point suivant, bah, notamment les handicaps possibles avec l'âge, hein, parce que bah, avec l'âge arrivent des handicaps possibles, que ce soit la vue, l'audition, même la dextérité sur le clavier. Est-ce que, bah, Claude Gage, est-ce que vous avez rencontré ce genre de problème, quel qu'il soit, depuis que vous vous êtes mis à l'informatique, donc à peu près il y a un an de cela, vous disiez avant la pause musicale?
Oui, l'audition, bon, je suis appareillé, donc ils n'ont pas de problème. Pour la vue, ça va, mais c'est le clavier. Là, j'ai du mal avec le clavier.
C'est quoi le problème avec le clavier?
C'est-à-dire que je m'empêtre dans les lettres, quoi. Au lieu d'écrire bonjour, j'écris bonjour avec Z-T-U-R-T. Ou, je ne sais pas. C'est voilà, il faut que j'apprenne à me servir de ce clavier sans trop me tromper. J'ai essayé d'envoyer un mot à des amis. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu nous as raconté? On n'a rien compris. Et forcément, j'avais mis des lettres un peu n'importe comment, sans faire exprès. Hein.
D'accord.
En croyant bien faire, je faisais mal.
Et voilà. Alain Cazier, est-ce qu'il y a des formations alors là, c'est le clavier sur ordinateur, c'est-à-dire le gros clavier?
Oui, d'accord. Le clavier okay. Ordinateur, oui.
Est-ce qu'il y a des formations simplement à taper au clavier dans ton centre social?
Des formations spécifiques pour à la frappe finalement sur le clavier,
oui.
Non, pas véritablement, mais par contre, c'est vrai que ça fait partie des trois éléments de base que les gens doivent maîtriser au départ, c'est-à-dire la connaissance du clavier. Là aussi, la connaissance du clavier, c'est progressif. On peut pas le faire instantanément, parce que si on noie les utilisateurs potentiels en leur décrivant toutes les touches d'un clavier et les usages possibles qu'on peut en faire, ça va pas marcher. Donc le clavier, la souris, le fenêtrage, ce sont les trois éléments de base.
Alors le fenêtrage, explique ce que ça signifie.
Alors le fenêtrage, c'est-à-dire que quand on lance une application, on va voir sur l'écran un rectangle qui va où va tourner l'application, le programme qu'on souhaite utiliser, par exemple Firefox comme navigateur. Donc on va voir ça, les gens vont vouloir le fermer, vont vouloir ouvrir un autre onglet pour, en même temps qu'ils font une recherche sur tel musicien, pouvoir lire leur mail sur un webmail, enfin bon, ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie des éléments de base et faut prendre le temps de le faire. Justement avec les problèmes qui peuvent surgir de vue, de dextérité manuelle ou d'oubli simplement des personnes qui ne se souviennent plus que c'est la touche Alt-GR qui va permettre de taper un arrobas.
Voilà, ce qui est effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Sur le salon web, on me signale Grammalect, qui est un correcteur typographique et grammatical libre, qui peut être installé par exemple pour LibreOffice, qui permet de faire de la correction automatique. Donc ça, c'est peut-être une étape d'après en tout cas, mais voilà, il y a des outils qui sont disponibles. Et autour de l'accessibilité en général, il y a pas mal d'outils dans le monde du logiciel libre qui dépend des environnements de travail qu'on peut rencontrer, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses. Alors là, on va aborder un petit peu on a relativement peu parlé de logiciels libres, parce que là, on a fait une introduction, mais c'est une introduction qui est importante. On me signale que Grammalect est aussi pour Firefox, donc le navigateur web, et Thunderbird, qui est un outil pour lire ses courriels. Donc il y a en tout cas pas mal d'outils qui sont disponibles. On mettra les références, évidemment, sur le site de Cause Commune et sur le site de l'April. On va parler un petit peu donc là aussi de logiciels libres, même si on a déjà parlé un petit peu, et puis d'ateliers, parce que donc toi Alain notamment, tu as une longue expérience en formation continue, hein, vu que c'était ton métier avant, et maintenant tu es animateur, enfin depuis très longtemps bénévole dans un centre social. Donc est-ce que toi tu fais de la formation au logiciel libre, ou est-ce que tu fais de la formation à l'informatique en utilisant des logiciels libres? Enfin, quelle est ta pratique de formation, et notamment pour ce public spécifique des seniors?
Alors, le public senior qui vient dans le centre social, dans pas mal de cas, ils ont un ordinateur portable. Et c'est clair que dans la plupart des cas, c'est pas un système libre qu'ils ont sur leur ordinateur portable. Donc, je leur propose pas de changer leur système, bien sûr, mais je leur propose d'abord d'utiliser, même dans ce contexte d'une machine avec un système Microsoft, d'utiliser des logiciels libres, d'utiliser Firefox comme navigateur, d'utiliser des moteurs de recherche qui ne soient pas Google, d'utiliser LibreOffice quand ils ont besoin de taper du courrier. Donc ça, c'est un premier pas. Ensuite, il y a des gens qui viennent et qui, comme il y a des relations, enfin qui s'établissent, qui me disent, moi je vais changer de portable, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que tu me conseilles. Donc à ce moment-là, là, je vais pouvoir peut-être dans certains cas leur proposer l'installation d'un système libre sur une machine sans système.
D'accord.
Et dans ce cas-là, je fais l'installation. Ça fera partie des, non pas des ateliers directement, mais toutes les demi-heures, pendant une demi-journée, je reçois des gens qui ont un problème informatique. Donc je leur dis, vous prenez rendez-vous avec, à l'accueil du centre pour venir, et ils viennent en une demi-heure ou un peu plus, parce que là, l'installation, ça peut être un peu plus long que ça. Donc, et dans ce cas-là, je leur installe un logiciel libre. Ça peut être des gens aussi qui ne veulent plus de Windows, qui ont déjà une notion d'être dans un système propriétaire, d'avoir une restriction de leur liberté, et qui me demandent sur une machine, ça peut être dans un titre de voisinage ou d'amis, de dire j'aimerais mieux que avoir un système qui ne soit pas un système Microsoft sur ma machine, et dans ce cas-là, je leur installe un.
Alors ça, c'est des personnes qui ont une réflexion déjà bien avancée quand même.
Là, c'est plutôt une. Ouais.
Ce qui est intéressant donc dans l'approche, c'est que les logiciels libres que tu as cités, LibreOffice, Firefox et autres, sont des logiciels libres qu'on appelle multiplateformes, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois disponibles sur environnement Windows, également sur environnement libre, donc les systèmes d'exploitation GNU Linux, et pour la plupart, je crois, aussi sur environnement Mac. Oui. Et ce qui permet qu'en fait, une personne qui arrive, donc comme tu le dis, avec son portable sous Windows, tu vas la former, ou en tout cas lui montrer quelques logiciels libres de base, qu'elle pourra continuer évidemment à utiliser chez elle, et si un jour elle évolue vers un système entièrement libre, elle retrouvera finalement les mêmes logiciels et d'autres, et que finalement ça permet une transition une transition souple vers finalement les libertés informatiques.
Oui, exactement, on est forcé de tenir compte du point où en sont les gens qui arrivent. Je peux pas, c'est, il n'y a pas de forcing à faire dans ce domaine-là, c'est sur la base de la conviction, et je pense qu'il y a des gens par contre qui ressentent un petit peu, enfin qui craignent en tout cas la mainmise sur toutes leurs données, et qui sont assez ouverts sur ce type de questions.
D'accord.
Disons que dans mon voisinage et entourage proche, il y a une dizaine de personnes pour lesquelles j'ai dû installer un système libre à la place de Windows ou des machines sans Windows. Et puis il y a aussi un point auquel ils peuvent être sensibles, c'est quand même le coût des licences. Windows, bon d'accord, on achète l'appareil et on
c'est on le, se coup, rend le pas prix compte, quelque le part prix, inclus, inclus dans son bac.
On ne sait pas d'ailleurs exactement quelle est la part respective du système et du matériel quand on achète un portable. Ça, c'est la première chose. Mais par exemple, pour la bureautique, pour des gens qui ont besoin de LibreOffice pour différentes fonctionnalités, faut s'abonner auprès de Microsoft si on veut Microsoft Office, et c'est un renouvellement tous les ans et on paye tous les ans. Et je leur dis, dans ce cas-là, faut mieux utiliser LibreOffice, et puis on aide LibreOffice à continuer à se développer en versant une somme toute modique et moins importante que celle qui est versée à Microsoft pour avancer sur cette question.
Et cette question, du coup, elle revient assez souvent dans les motivations ou...
C'est-à-dire que les gens qui sont... dans les ateliers que j'anime, c'est essentiellement des femmes âgées, hein, essentiellement.
D'accord. Ah ouais.
Oui, beaucoup plus que les hommes. C'est vraiment...
Comment tu
l'expliques ? Déjà, il y a une différentielle d'espérance de vie, peut-être
oui.
Que c'est ça. Donc, il y a peut-être ça. Et puis d'autre part, disons que dans l'ensemble, il y a des femmes qui sont un peu isolées, isolées, donc elles viennent dans le conseil des seniors, et du coup, elles ont connaissance des ateliers qu'on peut animer. Et donc, je pense que c'est le coût des fois. Et puis, en plus, faut penser que l'informatique, la maîtrise de l'informatique, il y a un aspect culturel, mais il y a un aspect social. C'est-à-dire que les gens qui, par exemple, dans l'atelier que j'animais lundi dernier, enfin hier donc, il y a une personne qui était couturière. couturière chez un tailleur. Donc, c'est quelqu'un qui a des revenus très modestes. Ouais. Donc, si je lui dis, bah, il y a peut-être une économie de 50 euros ou de 100 euros à faire, ça fait une différence. Quand on voit les prix des licences Windows, bon, quand elles sont achetées à part, c'est phénoménal.
Oui, c'est du racket.
C'est plutôt 150 ou euros. Donc, je pense que ça peut toucher certaines catégories.
D'accord. Claude Gage, vous avez dit tout à l'heure que ça faisait à peu près un an que vous étiez mis à l'informatique. C'est quoi? C'est quelqu'un de votre famille qui vous a acheté un ordinateur? Ou vous-même, vous avez dit, je vais m'acheter un ordinateur? Qu'est-ce qui a été le déclencheur?
Déclencheur? Ça a été une grande surprise. C'est un cadeau qui m'a été fait par des gens de ma famille, dont Alain, un oncle, un cousin, voilà, qui, pour me mettre un peu au pied du mur, m'a offert cet ordinateur.
Donc on va expliquer que vous êtes tous les deux cousins. Oui. Et donc, je suppose que ça doit être assez souvent le cas que finalement, une personne de la famille ou la famille se cotise pour acheter un ordinateur à quelqu'un, un seigneur de la famille. Et donc, c'est l'occasion de découvrir. Et donc, très souvent, on va dire la majeure partie du temps, le système est préinstallé sans doute avec Microsoft Windows, d'où l'importance de l'avoir des logiciels libres multiplateformes et d'y aller par étapes. Tout à l'heure, quand on préparait, tu parlais, Alain, de partir des besoins aussi, parce que on rencontre alors de moins en moins de gens qui essayent de contraindre et forcer les gens d'aller vers le logiciel libre, mais ce qui est important, c'est de partir des besoins des gens, en fait.
Oui, c'est-à-dire que si Claude nous avait dit, moi, l'informatique, je n'en veux pas, j'ai des gens que je connais dans mon entourage, je ne veux avoir aucun smartphone, je ne veux pas. Mais en même temps, tu constatais que par rapport à ton métier, il y avait des liens que tu n'avais plus, que tu perdais de l'information et tout ça. Beaucoup. Donc c'est ça qui nous a motivés à dire en faisant un tour et pour tes 80 ans de pouvoir que tu puisses avoir un ordinateur et également un smartphone.
Oui, c'est ça, et rester en contact avec beaucoup de gens.
Mais il y a des gens qui sont complètement réfractaires. Moi, je vois des gens qui disent je veux pas m'occuper de ça, ou j'ai plus l'âge de m'occuper de ça. Bon, alors je sais pas comment ils réagiront dans 2 ans ou dans 1 an, mais en tout cas faut partir de là où en sont les gens. Et là, il y avait clairement chez Claude l'expression d'un besoin, l'expression d'un manque.
Oui, c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure par rapport notamment à son métier. Là, je suis en train de regarder les commentaires sur le salon web. Donc, je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent nous rejoindre sur causecommune.fm. Tout à l'heure, donc, Alain, tu parlais de l'aspect coût. Y a Muman qui nous rappelle que on peut trouver sur le site agendadulibre.org, donc agenda du libre tout attaché, non seulement tous les événements autour du logiciel libre, mais également la liste des organisations qui font des formations, des accompagnements autour du logiciel libre, ce qu'on appelle les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc là, Alain, toi, tu es bénévole dans un centre social parisien, mais partout en France, il y a des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices qui aident les gens à aller vers le logiciel libre. Il y a aussi des médiathèques, des cyberbases, etc. Ça, c'est le premier point. Et sur l'aspect du coût, c'est toujours Muman qui dit autant payer une petite cotisation à son groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices local ou de donner à LibreOffice plutôt que de donner beaucoup d'argent à Microsoft ou Apple. Donc voilà, c'est vrai que c'est un retour qui peut être intéressant par rapport soit au projet, soit aux gens qui vous aident. Alain, oui.
Tout à fait, oui. Je crois que, par contre, dans ce domaine-là, moi, je me suis senti un peu démuni des fois parce que j'étais le seul à pouvoir former, le seul en tant que bénévole en général dans l'informatique, parce qu'il y a des manques, des besoins de. S'il y a des centres sociaux qui sont espaces publics numériques et qui peuvent apporter une aide, il y a des médiathèques aussi, par exemple comme celle des Halles qui fonctionne sur le logiciel libre. Mais quand on est seul, on se débrouille avec un petit groupe de personnes, mais on va pas plus loin. Et je pense que ça pourrait être une ouverture sur les logiciels libres en général. Qu'il y ait installation après d'un système libre, c'est une autre question, c'est une autre étape. Mais en tout cas, sur l'usage de logiciels libres et sur la protection de ces données, je pense que ce serait très intéressant que peut-être que les groupes locaux visent aussi ce public-là. Parce que les groupes d'utilisateurs de logiciels libres tournent avec du public avancé, jeune. Des jeunes qui connaissent bien le domaine.
Ah oui, tu parles de viser le public des seniors.
Voilà, viser le public des seniors. Et peut-être que dans ces groupes, d'ailleurs, s'il y avait des bénévoles, des gens qui voudraient le soir... Alors, c'est plus difficile pour les gens jeunes parce que les animations se déroulent souvent en journée. Voilà. Mais ça peut se faire aussi le soir dans certains cas. Ça serait bien de pouvoir étoffer le potentiel d'animateur de ce type d'atelier.
Alors, donc, c'est un appel lancé au groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, effectivement, d'élargir leur périmètre s'ils peuvent le faire, parce que, comme tu le dis, les formations sont souvent en journée pour ce type de public. Concernant les espaces publics numériques, j'informe les personnes qui nous écoutent que le 22 octobre, donc dans 15 jours, nous ferons une émission donc sur les espaces publics numériques et le logiciel libre avec une personne donc de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, une personne de la cyberbase de Saint-Denis, donc dans le 93, et une personne de la biothèque francophone de Limoges, pour le retour d'expérience par rapport donc à la formation et sensibilisation au logiciel libre, là pour tout public. Et évidemment, ils ont aussi beaucoup de CDR. Donc c'est le 22 octobre. Alors, je regarde les petites questions qu'on nous a envoyées aussi en préparant l'émission. Quelle est la publicité faite et de quelle façon fais-tu, notamment Alain, pour attirer les seniors dans ces formations ? Pour les sortir justement peut-être de la solitude dont tu parlais tout à l'heure, ou les convaincre de venir à ces formations. Est-ce qu'il y a une méthode utilisée ? Est-ce qu'il y a une approche qui permet vraiment de les convaincre de venir ?
Alors, je disais à l'instant que j'étais un peu des fois seul à faire ce genre de... Et j'aurais... Faute de relais, c'est difficile. Moi, je peux pas. J'ai des activités. Je peux pas former des dizaines de personnes. Je peux former un groupe. Je peux donner une demi-journée de plus. Enfin bon, en gros, j'y consacre une grosse demi-journée juste en atelier ou en soutien quand les gens ont un problème, qu'ils ont rencontré un bug en informatique et que donc élargir, j'ai pas besoin trop de faire de publicité en fait.
C'est
le Conseil des seniors.
Qu'est-ce qui s'appelle le Conseil des seniors ?
Conseil des seniors, c'est un groupement organisé par la mairie du 10e. Je pense que dans les autres mairies d'arrondissement, ça doit exister à l'identique. Et donc ils se réunissent pour des activités qui les intéressent. Ils définissent ensemble les activités et ils se réunissent. Nous, on a la chance qu'ils se réunissent dans le centre social. Donc, quand ils ont une activité chorale, ils l'amènent dans le centre social. Donc, ils connaissent les activités du centre, on leur présente. Ça se fait très naturellement. Ça serait d'ailleurs peut-être dans d'autres endroits, je pense que ça existe dans d'autres arrondissements, un moyen de contact avec cette population qui est plus âgée que les autres.
D'accord. Dans ton expérience de formateur, est-ce que tu vois des différences entre réelles dans l'approche entre les différents types de publics, que ce soit les jeunes, les gens de 30-40, et puis les seniors ? Ou est-ce que finalement, au niveau formation, c'est à peu près pareil ?
Je crois que non, il y a les mêmes démarches, hein, de toute façon. Sauf que là, ce sont souvent des gens... souvent qui débutent complètement, donc qui n'ont même pas eu une approche quelconque. Hein. Quand même, c'est difficile d'avoir des gens de 30 ans qui n'ont aucune approche du numérique et de l'informatique. Pour les gens qui ont plus de 65, 70, voire plus, bon, ils ont des fois, ils arrivent. Donc, faut revenir sur les bases que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le clavier, la souris, l'utilisation d'un système avec des fenêtres. Et en plus, on constate que dans cette formation, la souplesse ergonomique apportée par certains logiciels, quel que soit d'ailleurs que ce soit libre ou pas libre, peu importe, est une entrave à l'apprentissage rapide. C'est-à-dire que plus, le potentiel, par exemple, pour faire un copier-coller, qui existe dans tous les logiciels à l'heure actuelle, est perturbant pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que si on peut pas, on ne va pas annoncer à quelqu'un qu'il y a 5-6 façons de faire un copier-coller dans le logiciel. Donc, il faut s'en tenir à une seule possibilité, leur dire on peut faire autrement, mais si ça vous intéresse, je vous le dirai. Mais surtout, très progressif dans le potentiel offert par les logiciels à l'heure actuelle. L'ergonomie tue d'une certaine façon l'ergonomie. La richesse visuelle, le graphisme, ça peut être très, très joli, mais c'est aussi une entrave en termes de formation.
Des fois, la simplicité
Et donc, je pense que là, du coup, les systèmes, il y a sous certains systèmes libres un potentiel d'avoir des systèmes simplifiés, qui n'existent pas dans les systèmes propriétaires. Et je pense que là, ça peut être aussi intéressant d'avoir des versions plus sobres.
D'accord. Claude Gage, dans votre découverte de l'informatique, est-ce que vous avez découvert récemment des logiciels ou des sites, vous avez parlé tout à l'heure du moteur de recherche, mais aussi un petit peu de Wikipédia, mais dans votre découverte finalement, est-ce que LibreOffice maintenant, VLC, vous connaissez, ou est-ce que vous êtes dans la phase d'apprentissage?
Je suis plutôt dans la phase d'apprentissage. D'accord. Alors je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, je dirais des bêtises, je suis plutôt dans la phase d'apprentissage. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, envie d'en savoir plus et d'utiliser beaucoup plus que je ne le fais mon ordinateur et Internet.
Et donc, en fait,
et avoir une réponse à toutes ces questions que vous me posez, auxquelles je ne peux pas
répondre. Et donc, dans votre pratique, vous allez donc, comment ça se passe? Vous allez au centre social avec Alain ou vous avez de la formation à la maison? Comment vous faites?
Non, c'est Alain en fait, qui se dérange jusqu'à moi pour m'aider à me dégrossir. Ouais. Je ne sais trop comment le remercier du mal qu'il se donne. Je suis un peu bouché.
Non, j'ai pas du tout l'impression que vous soyez bouché. Je crois que dans beaucoup de familles, en fait, c'est ça. C'est, c'est l'entrée dans les familles. Là, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît bien au logiciel libre. Je pense que dans plus en plus de familles, c'est le cas. Tu veux rajouter quelque chose, Alain ?
Oui, je voudrais dire que c'est quand même aussi... Il faut penser que les gens abordent... ça peut être abordé avec plaisir, cette découverte. Quel que soit l'âge à laquelle on découvre. C'est-à-dire qu'à 80 ans, à 85 ans ou à 60 ans, on peut avoir du plaisir à découvrir le potentiel du numérique sur tel ou tel domaine. Il ne faut pas avoir simplement... C'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont très lourdes, qui handicapent les gens. Il y a plein de choses difficiles. Mais en même temps, il y a aussi du plaisir à découvrir des choses qu'ils pensaient complètement inaccessibles.
Et Claude Gage, est-ce que vous avez... Alors, on approche de la fin de l'émission, mais on a parlé tout à l'heure de sites qui parlent d'artistes et autres. Est-ce que, dans votre métier, vous, donc, de comédien, est-ce que vous avez envie, à un moment, de vous lancer dans la création d'un site web, aidé par quelqu'un pour faire connaître votre métier d'acteur, de comédien? Ou c'est pas du tout dans vos intentions?
Non, c'est pas dans mes intentions, pour
d'accord.
le moment. Non, non, mon intention, c'est de l'utiliser d'une façon pratique, un peu intelligente.
D'accord.
De m'ouvrir davantage aux possibilités qu'offrent Internet et l'ordinateur, et de savoir un peu le maîtriser tout ça, quoi. Et ça, j'ai une grande envie. Et cette émission va beaucoup m'aider et m'encourage fortement à continuer dans cette voie et à le faire.
Ah bah écoutez,
je vous en remercie beaucoup.
Ah bah c'est super. Alors, vous êtes à la radio, les personnes qui nous écoutent, donc vous ne pouvez pas voir Claude Gage, mais quand il parle d'Internet, d'informatique, il a un sourire. Donc, on sent vraiment le plaisir de la découverte. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Et je rappelle que vous êtes à l'affiche en ce moment avec 11 autres acteurs dans 12 hommes en colère, donc au théâtre Héberto. C'est dans quel arrondissement de Paris?
17e,
métro Rome. Métro Rome, et c'est jusqu'à quand?
Jusque début janvier.
Donc jusqu'à début janvier 2020, donc courez-y pour aller voir ce film. Et l'actualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, rend encore plus important de voir ce genre de film, donc 12 hommes en colère. Alors Alain, je vais te laisser le mot de conclusion. Alain, non,
je rectifie, c'est une pièce, c'est pas un film.
Ah oui, j'ai dit un film. Alors voilà. Alors à l'origine, c'est une pièce. Alors le nom, je vais m'échapper, mais c'est Réginald
Rose.
Et effectivement, après, il y en a eu un film de Sidney Lumet. Il y en a peut-être d'autres, mais effectivement, à l'origine, c'est effectivement une pièce. Merci de la correction. Merci de la correction, Alain. Donc merci en tout cas. Je remercie donc de nouveau Claude Gage, donc comédien. Peut-être un mot de conclusion d'Alain Cazier.
Si c'est cette émission peut servir à susciter des volontaires pour un bénévolat, où qu'il soit et quelle que soit sa nature, pour développer le logiciel libre et aider les seniors à s'en sortir sur les problèmes qu'ils rencontrent en informatique. Ça sera parfait, ça sera pour moi un atout important.
Bah écoute, je l'espère aussi. En tout cas, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite de passer une belle journée. On va passer au sujet d'après. Alors, on va faire une pause musicale, mais en fait, la pause musicale est intégrée dans le sujet d'après, parce que tout simplement, nous allons écouter la musique d'un groupe que j'aurai le plaisir d'interviewer juste après. Donc, nous allons écouter Eger par Stone from the Sky. On se retrouve donc juste après.
Cause commune.
Nous venons d'écouter Egger par Stone From The Sky, disponible sous licence Art Libre. J'espère que vous avez apprécié ce morceau comme nous l'avons apprécié ici. Et nous avons le plaisir d'avoir par téléphone avec nous un des membres du groupe, Dimitri Even. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Alors, tu es donc un membre du groupe Stone From The Sky. Donc déjà, première question avant d'aborder la partie, on va dire, licence libre. Est-ce que tu peux présenter rapidement le groupe d'un point de vue musical? Parce que tout le monde ne maîtrise pas forcément ce type de musique, et puis son historique, son nombre de membres, voilà. Présente-nous un petit peu Stone From The Sky.
Alors, Stone From The Sky, donc, c'est un projet qui est né en 2012 sous l'impulsion du coup de moi et de Florent, le guitariste. Donc c'était un projet voilà qu'on a au départ fait un peu pour s'amuser. On savait même pas quel instrument on voulait prendre chacun, voilà, c'était sur ce niveau là quoi. Et c'est devenu un projet très sérieux assez rapidement, voilà. Et du coup on fait du ce qu'on appelle du stoner. Alors dans le grande généralité, c'est de nous on est complètement instrumental, et du coup c'est de la musique qui a un mélange un peu de tout ce qui est musique un peu Black Sabbath, Caius, Queen of the Stone Age, mélangé en fait au krautrock un peu allemand, voilà, toutes les musiques un peu psychédéliques allemandes, le rock psyché, la musique progressive 70s. Enfin, il y a beaucoup de choses qui datent du passé mais réactualisées de façon très moderne, avec un son hyper moderne en fait.
D'accord. Et vous êtes combien dans le groupe? Vous êtes deux ou plus?
On est trois.
Trois.
Donc basse, guitare, batterie. Et voilà, le minimum nécessaire pour faire voilà, un maximum de bruit.
D'accord. Alors, une des spécificités de nos pauses musicales dans l'émission, c'est de diffuser que des musiques sous licence libre. Et donc, c'est un choix qui n'est pas forcément ordinaire. Donc, je voudrais, parce que c'est votre cas, vous diffusez votre musique sous licence, donc sous licence art libre. Donc, comment vous avez découvert l'existence de ces licences libres, et pourquoi avoir choisi une licence libre, et en particulier, pourquoi la licence art libre?
Alors en fait, dans notre précédent projet à Florent et moi, on est rentré dans une association qui s'appelle l'AMMD, l'Amicale du Mécanique Metal Disco, qui était voilà constituée de copains qui habitaient pas très loin de chez nous, et donc du coup on est rentré dans l'asso quand ils ont commencé à nous parler de tout ça. On trouvait ça super intéressant, et du coup voilà, ils nous ont vachement initiés à tout cet univers là, et en fait ça nous a paru, mais voilà, c'est de la logique même. À partir du moment où on a commencé à monter ce projet, bah pour nous c'était la base, que ce soit en licence art libre, parce que voilà, c'était aussi notre culture de la musique à nous, et puis c'est quelque chose qui est en train de se développer, donc nous on est hyper contents de participer à cette montée en puissance des licences art libre, même si ce sont pas toujours toutes en vraiment libres, mais oui. Au moins il y en a une partie voilà qui monte quoi.
D'accord. Et par rapport à votre but de faire de la musique, c'est quoi la motivation principale? C'est quoi? C'est gagner de l'argent, devenir célèbre, vous faire plaisir, partager un plaisir?
Surtout se faire plaisir. En fait, l'idée, c'est que le projet nous permette de faire des tournées, des concerts, voilà, dans plein d'endroits différents, qu'on puisse un peu découvrir des nouvelles têtes, découvrir des nouveaux publics. Se faire plaisir aussi, faut aussi voilà, nous on est très rigoureux aussi sur la gestion du projet, pour que le projet ne nous coûte ne nous fait pas gagner d'argent, mais faut pas qu'il nous coûte d'argent non plus. Donc on a une manière très professionnelle de faire tourner le groupe, même si on est tout bonnement des amateurs selon le système selon le système français qui dit si t'es payé t'es professionnel, si t'es amateur, si t'es pas payé t'es amateur. Alors que nous on considère un peu comme des professionnels, même si on gagne pas d'argent dessus.
D'accord, c'est-à-dire que vous avez un métier à côté et que là ce que vous faites c'est pour le plaisir, même si c'est fait de façon professionnelle.
Tout à fait, voilà.
D'accord.
Bah ça mange nos loisirs et nos vacances, mais on est content parce que nous c'est notre plaisir à nous quoi.
D'accord. Et quand tu parles de concert, est-ce que le fait d'avoir de la musique sous licence libre, c'est un frein ou quelque chose de plutôt positif, ou c'est neutre quand tu organises les tournées?
On va dire que le milieu stoner est pas encore hyper formé à ça, donc eux ça leur passe des fois un peu au-dessus de la tête. Sauf en Allemagne où c'est quand même un vrai plaisir de pouvoir foutre sur leur fichu truc de la GEMA, c'est de l'art libre, va te faire voir.
C'est quoi la GEMA?
Sympa.
C'est quoi la GEMA?
Alors la GEMA c'est la SACEM, SACEM allemande, qui est pour le coup beaucoup plus agressive que la SACEM française, qui va vraiment chercher, y compris dans les squats, y compris dans les lieux autogérés. Voilà, s'il y a un concert qui est fait, ils iront quand même te fiche la voilà le le petit papier sous le nez. Hein. C'est assez.
Alors, je ne savais pas qu'on pouvait être plus extrême que la SACEM. Voilà. Donc, mais c'est. Donc, évidemment, la version allemande de la SACEM est encore pire que la SACEM. C'est ce que
voilà,
tu dis.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Ils sont très, très, très agressifs.
D'accord.
Et voilà, du coup, nous, on essaie d'introduire cette notion de musique, d'art libre, de prix libre, voilà, de choses comme ça, qu'on essaie de faire rentrer aussi dans le. Un peu dans la tête du stoner français, et puis on commence à voir des groupes qui font la même chose, on commence à voir quelques petites mentions CC by NC qui traînent par-ci par-là, on se dit bon, c'est pas mal, c'est un premier pas, ça commence à venir quoi.
D'accord, alors je précise que CC by NC, ça veut dire que notamment c'est pas d'usage commercial, alors que vous, dans la licence art libre, vous autorisez l'usage commercial, mais comme tu dis, c'est une première étape dans la réflexion. Alors, le fait que ce soit en licence art libre n'empêche pas évidemment de vous payer, même de payer pour récupérer les sons sur votre site ou sur le site de Bandcamp. Mais j'ai vu que dans le troisième album, donc Breakleg, dont Eger est un extrait, il est sorti chez Morpheus Records. Est-ce que ça veut dire qu'on peut acheter une version, on va dire matérielle de l'album, un vinyle ou quelque chose dans le même genre?
Alors, nous, notre politique, c'est d'avoir quelque chose de plus accessible possible, notamment sur les CD. Le CD est en vente à prix libre sur nos concerts. Par internet, on essaie d'éviter les trucs type prix libre, parce que sinon ça va nous coûter plus cher en frais de port qu'en CD. Donc bon, voilà, c'est pas gérable pour le moment. La musique en téléchargement numérique, elle est à prix libre, même chose aussi. Et on a également des vinyles. Et pour le coup, là, les vinyles, on essaie d'avoir la meilleure qualité possible pour une vente la moins chère possible, parce que bon, voilà, c'est pas parce que t'es pas riche que t'as pas le droit de repartir avec un beau vinyle. Donc on est je pense à au moins 6-7 euros moins cher que le prix standard du marché.
D'accord.
Donc voilà, on est assez content de pouvoir tirer un peu les prix vers le bas.
Et puis, c'est important parce que, enfin, je pense qu'il y a encore plein de gens qui sont encore attachés. Moi, personnellement, je suis toujours attaché à l'aspect matériel, que ce soit vinyle ou CD avec éventuellement une petite plaquette, etc. Donc, c'est important de pouvoir repartir avec un objet qu'on achète lors de vos concerts.
Oui, tout à fait. Et puis, il faut éviter de se. Enfin, faut pas se foutre de la gueule des gens. Faut essayer d'avoir un beau projet. Si quelqu'un repart avec un beau vinyle, avec une belle pochette, une belle musique, au moins, il est vraiment hyper content de sa soirée. Et de toute façon, il reviendra au concert. Il rachètera un autre chose. Enfin, c'est toujours voilà. Quand, à partir du moment où on se fout pas de la gueule des gens, les gens ils nous le rendent et donc du coup ils reviennent, ils rachètent le CD suivant, ils font attention à nos sorties. Voilà, c'est le prix libre et les prix raisonnés sont. Enfin, c'est toujours le plus efficace. Hein. On a réussi à convertir quelques collègues dans le milieu aussi à ça. Voilà, ils vendent leurs premières démos en prix libre et en fait ils se rendent compte qu'ils font plus d'argent que quand ils vendaient ça à 5-10 euros. Donc,
Bon, voilà. Bah, c'est parfait. Est-ce que, au-delà de la licence libre, est-ce que pour faire votre musique, vous utilisez des logiciels libres?
Alors, les logiciels libres, pour tout ce qui est partie, on va dire, graphisme, visuel, bah, tout ce qui est un peu externe à la gestion du son, on fait tout sous licence art libre, GIMP, voilà, des choses, ça, sous logiciels libres. Alors, par contre, encore le petit souci, la petite étape qu'on n'a pas encore pu passer, parce que notre sondier n'est pas encore sensibilisé à ces choses-là, mais on l'embête un peu au fur et à mesure pour qu'un jour il y passe, c'est qu'en fait on a un ingénieur du son qui est notre ancien batteur, qui connaît parfaitement le son du groupe, avec lequel on est hyper en confiance, qui lui par contre fonctionne encore sous Mac, Pro Tool, tout ça. Et donc avec le temps, on désespère pas d'un jour peut-être le faire passer sous hardware. Ça viendra avec le temps. Quoi.
D'accord. Alors, dernière question, parce que la fin de la mission est très proche. Votre actualité, vous êtes en concert à Paris, où ça et quand?
Alors, on joue à l'International le samedi 12, donc samedi là.
12 octobre.
Ce sera. Je ne sais pas dans quel arrondissement de Paris.
11e.
Mais voilà. Donc, c'est, vous pouvez nous voir là-bas. En plus, on jouera avec Écolote et. Adrift, si je me rappelle bien, et pour une association qui est vraiment super, qui se bouge vraiment le cul pour faire jouer des groupes sur Paris, qui s'appelle Feuzo Raptor, qui est vraiment dans un esprit similaire au nôtre, essayer au maximum de faire des concerts accessibles, voilà, plein de choses comme ça. Et le reste du mois, à partir du 23, on part en tournée européenne, on fait France, Belgique, Allemagne, Suisse, et donc voilà, si vous voulez nous attraper, on sera pas très loin de chez vous à un moment ou à un autre dans la fin du mois de novembre.
Bah écoute, en tout cas, c'est super. Donc pour les gens qui sont en région parisienne, donc le 12 octobre 2019, donc un international dans le 11e. Pour les autres, vous allez sur le site. Alors je l'ai pas cité, mais on va le citer, donc de Stone from the Sky. Donc c'est tout attaché, stonefromthesky.fr, et on retrouvera date de concert, musique, etc. Bah écoute, Dimitri, je te remercie et puis je te souhaite bon concert samedi et puis de continuer à faire de la belle musique qui nous permet de faire des belles pauses musicales dans Libre à vous et ça fait très plaisir.
Eh ben, c'est un plaisir pour nous.
Eh ben, à bientôt, Dimitri. Bonne journée, au revoir.
Merci.
Alors, nous allons passer aux petites annonces de fin. Alors, annonce de fin très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Eh ben, écoutez, réponse au quiz, déjà, parce que sinon... Donc, c'était la question lors de l'émission du 1er octobre 2019. Nous avons parlé de la licence professionnelle métier de la communication, chef de projet, logiciel libre. Quel était le nom de cette licence? Ben, c'est la licence Colibre, colibre.org. Les annonces, vous irez sur l'agenda du libre.org et vous verrez tous les événements. Je vais juste en profiter pour vous encourager à écouter les autres émissions de Cause Commune. Il y a des antennes libres, il y a des émissions sur les cultures numériques, sur la culture, sur la musique, sur les livres, sur les sens sociaux, sur les nouvelles mobilités, sur l'édu-pop. Et je félicite tout particulièrement Quentin Hernandez qui a découvert récemment les luttes sociales, politiques et climatiques, mais aussi Olika, Tolly, Charlotte, William, Quesh, et j'en oublie sans doute. Cause commune, c'est la voix des possibles, écoutez-la. Donc l'émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission et évidemment Isabelle Lac qui était aux manettes de la régie aujourd'hui. Les références sur le site causecommune.fm et sur le sud de l'april.org. On se retrouve en direct mardi 15 octobre 2019 avec le collectif Regard Citoyen, qui s'intéresse au fonctionnement des institutions publiques à partir des informations publiques. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. On se retrouve en direct mardi 15 octobre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien.